Bonjour mes frères et mes sœurs. Quelle est l'importance du sabbat dans votre vie? En fait, pourquoi les chrétiens doivent-ils célébrer le sabbat? Quelle est l'importance de ce jour dans notre vie? Autrement dit, pourquoi Dieu a désigné un seul jour de la semaine où il a mis son nom et nous a recommandé de nous reposer? Voyez-vous, c'est une question qui intrigue beaucoup de gens. Car d'une façon générale, les gens ne savent pas pourquoi ils observent un jour quelconque de la semaine. Quelle différence cela fait-il est la question principale. Et pourtant, c'est le commandement, l'un des 10 commandements, que Dieu nous impose. Mais pourquoi? Je me rappelle, c'est cette question que j'ai posée à un ami lorsque je suis entré dans l'Église de Dieu. Je disais, mais quelle est l'importance de ce jour? Pourquoi en faire une distinction? J'attendais une réponse à laquelle je pouvais objecter. Vous savez quoi? La seule réponse qu'il m'a donnée m'a déçu. M'a déçu parce que je ne pouvais pas vraiment objecter. Il m'a dit, nous célébrons le sabbat parce que Dieu le dit. Alors là, je ne pouvais rien faire. Cet échec m'a, pour ainsi dire. Et c'est ça la vérité, voyez-vous. D'entre tous les jours de la création, autrement dit, les 7 jours de la semaine, Dieu choisit un jour particulier. Pourquoi? La raison pour laquelle nous est donnée dans Genèse, chapitre 2, versets 2 à 3, où nous lisons, « Dieu acheva au 7e jour son œuvre. » Autrement dit, il faut d'abord comprendre que Dieu a choisi ce jour-là pour se reposer, comme nous verrons. Nous ne parlons pas de la création totale, mais de la création de l'homme. Alors, regardez voir ce qui est marqué dans Genèse, chapitre 2, versets 2 à 3. Dieu acheva donc au 7e jour son œuvre, l'œuvre que nous voyons ici en ce qui concerne cette terre, l'homme, qu'il avait faite, et se reposa au 7e jour. Voyez-vous, Dieu n'avait pas besoin de se reposer au 7e jour, mais il nous a donné un ordre et en même temps un exemple de toute son œuvre, je répète, son œuvre qu'il a faite sur cette planète ici, et qu'il avait faite. Ensuite, Dieu bénit le 7e jour, verset 3, Genèse 2. Il a sanctifié ce jour-là. Là encore, nous qui sommes dans l'Église, nous comprenons la raison de cette sanctification, mais pourquoi a-t-il choisi ce jour-là? D'abord, je précise, la création entière n'a pas été faite en 7 jours. Cette planète Terre même n'a pas été faite en 7 jours. C'est la création de l'homme sur cette Terre qui a été faite en 7 jours. Une fois que vous comprenez ceci, vous comprendrez mieux la raison pour laquelle Dieu veut que nous autres humains, nous reposions ce jour-là. Mais je continue. Genèse 2, chapitre 2. Dieu se reposa ce jour-là de son œuvre, cette œuvre dont je vous parle qu'il avait faite, et Dieu bénit le 7e jour. Voyez-vous, c'est Dieu qui l'a béni, ce n'est pas nous. Autrement dit, si Dieu bénit quelque chose, nous devons le respecter. Ensuite, il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Ensuite, il le sanctifia, verset 3. Vous savez ce que c'est que sanctifier? C'est de rendre saint. C'est Dieu qui a vraiment sanctifié le jour du sabbat. Celui qui l'a nommé saint, ce n'est pas un homme quelconque, certainement pas les Juifs, comme le monde le pense. Ensuite, c'est marqué verset 3 toujours, parce qu'en ce jour-là, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée. Alors, maintenant, tâchez de comprendre. Si vous lisez Genèse chapitre 1, chapitre 2, vous verrez que la création a eu lieu et cette création a été faite, y compris le jour du sabbat, d'un soir à un autre soir. Autrement dit, les jours commençaient à cette époque-là et ont commencé pendant longtemps, du reste, après le retour du Christ, du coucher du soleil au coucher du soleil. C'est assez récent, relativement parlant, que nous célébrons les commencements des jours, de minuit à minuit. Bibliquement parlant, les jours doivent commencer d'un coucher du soleil au coucher du soleil suivant. Ceci est vrai même en ce qui concerne les sabbats annuels. Car il y a aussi des sabbats annuels, comme nous le savons nous autres, dans l'Église de Dieu. Nous célébrons les sabbats annuels qui sont mentionnés dans Lévitique 23. Ces jours sont aussi des jours saints, parce que Dieu a mis son nom, parce que Dieu a décrété qu'il en soit ainsi. L'importance du sabbat, c'est que, voyez-vous, à chaque sabbat, nous nous assemblons, nous nous réunissons, nous nous mettons ensemble, nous autres qui sommes appelés, afin de nous reposer en étudiant d'abord la Bible, en nous approchant davantage de Dieu, ensuite en ne pas nous occupant du travail normal que nous faisons d'une façon générale durant la semaine. Tâchons de comprendre, nous qui sommes dans l'Église de Dieu, l'importance du sabbat dans notre vie. Car chacun de nous, si nous sommes vraiment convertis, si nous sommes vraiment dans l'Église de Dieu, nous devons comprendre que le sabbat doit avoir une importance particulière et aussi une signification nécessaire et personnelle pour chacun de nous. D'abord, tâchons de comprendre ceci. Les 10 commandements sont absolument nécessaires à notre salut. Non pas parce que nous sommes sauvés par l'observance des 10 commandements, non. L'observance des 10 commandements nous approche de Dieu, nous met sur le bon chemin qui conduit vers le salut, nous donne le privilège de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Mais voyez-vous, le sabbat, c'est un des 10 commandements. Pourquoi dans ce cas-là, la plupart des chrétiens, d'une façon générale, rejettent ce jour-là? Pourquoi nomment-ils un jour juif alors que les juifs, comme nous venons de voir déjà, n'existaient même pas lorsque le sabbat a été créé? Voyez-vous, voilà la façon humaine de raisonner les choses. Le sabbat n'est pas juif, loin de là. Les juifs l'observent, tant mieux. Nous autres chrétiens, pour être vraiment convertis, pour être vraiment obéissants à Dieu, nous devons célébrer le sabbat, non pas comme les juifs, mais de la façon dont Dieu nous ordonne dans la Bible. Et pourtant, je répète, c'est le jour le plus ridiculisé, le plus questionné, en disant que les gens, c'est-à-dire les gens pensent, en disant que non, ce n'est pas important qu'un jour quelconque soit célébré dans la semaine. Mais si, c'est important. C'est très important aux yeux de Dieu que nous célébrions le jour de repos, le jour même qu'il désigne dans la Bible, c'est-à-dire le sabbat. Mais c'est quoi le sabbat? Comment savons-nous que c'est le septième jour de la semaine? Eh bien, la réponse, une fois encore, c'est très simple. Le sabbat, en hébreu, signifie jour de repos. Du reste, dans certaines langues, c'est ainsi qu'on nomme les jours. Premier jour, deuxième jour, septième jour. Le septième jour, c'est le sabbat. Une fois que vous comprenez ceci, voyez-vous, vous commencez à voir que lorsque vous faites attention à cela, lorsque vous commencez à vraiment respecter la parole de Dieu, que le sabbat est très important dans notre vie. C'est l'un des commandements les plus difficiles à observer, car ça va à l'encontre des tendances humaines. Nous voulons faire des choses qui nous plaisent. Et ce qui nous plaît n'est pas toujours agréable à Dieu. En premier lieu, lorsque nous faisons ce que Dieu nous dit, nous sommes toujours bénis. Voyez-vous, un jour, un avocat m'a demandé à Paris, lors d'une conférence publique, pourquoi moi-même je respectais le sabbat. Eh bien, je savais que lui, il allait objecter. Je lui ai dit que la raison pour laquelle nous observons le sabbat, c'est parce que Dieu le dit. Il dit, d'accord, mais pourquoi mon Église, son Église, il était catholique, pourquoi mon Église observe le dimanche et non pas le samedi? J'ai dit, eh bien, demandez-leur. Il a dit, écoutez, moi, je n'ai pas besoin de leur demander parce que ça, c'est... Je dirais la profession des ministres, des pasteurs et des prêtres. Donc, si j'ai besoin de quelque chose spirituel, je vais vers eux. Et si eux, ils ont besoin de quelque chose qui est du domaine, il vient vers moi. Et si mon église, donc, respecte le sabbat, le jour de dimanche, moi, j'en fais autant. Eh bien là, c'est un raisonnement ridicule. C'est pas ainsi qu'on peut vraiment observer les commandements de Dieu, c'est pas possible. Voyez-vous, tout ça a une raison. Le fait est que, si vous y pensez sérieusement, si Dieu nous dit que nous devons observer le jour du sabbat, le septième jour, et non pas un autre jour, il a une raison. Il y a une raison importante. Eh bien, en premier lieu, cet avocat avec qui je parlais ne s'en rendait pas compte que s'il avait pris le temps de, je dirais, de consulter le Larousse, par exemple, il aurait vu qu'il y a 30 ans, le Larousse disait que le sabbat, c'est le septième jour, c'est-à-dire le samedi. Et le même Larousse aujourd'hui, consultez-le vous-même, dira que le sabbat a été fait et dès la création, censément, et c'est le premier jour de la semaine, autrement des dimanches. Eh bien, cette confusion n'existerait pas si les gens demandaient justement à eux-mêmes et aux autres et consultaient dans des dictionnaires, dans des Larousse, comment le sabbat a été changé. J'en parlerai peut-être un peu plus tard maintenant, mais continuons ce sujet d'abord. Pourquoi, je répète, l'esprit humain ne veut pas comprendre, ne peut pas comprendre cette distinction entre ce qui est spirituel et ce qui est physique? Eh bien, vous savez, la raison, nous sommes dans l'Église, nous devons connaître, la raison, c'est le Saint-Esprit. Si vous avez le Saint-Esprit et que vous avez reçu le Saint-Esprit et que le Saint-Esprit vous guide dans la direction que Dieu veut que nous allions, vous comprendrez que Dieu nous a donné un esprit physique, un esprit humain, qui doit être transformé avec le temps, et qu'un jour, c'est-à-dire le jour de la résurrection des morts, nous serons transformés en être spirituel. Mais cette transformation ne peut pas se faire à moins que notre esprit charnel, physique, devienne donc imprégné par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi nous avons tous besoin de recevoir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous donne cette compréhension. Le Saint-Esprit, nous le recevons lorsque nous nous faisons baptiser, lorsque nous faisons notre part, lorsque nous commençons à respecter les lois divines, et lorsque le baptême a été administré de la façon dont Dieu nous recommande, dès ce moment-là, nous recevons donc le Saint-Esprit. Et en étudiant la Bible davantage, en priant davantage, nous comprenons beaucoup de choses que nous ne pourrions pas comprendre autrement. Autrement dit, nous comprenons ce que c'est qu'être converti. Ce que c'est qu'être converti. Ce que c'est qu'être chrétien. Ce que c'est que vraiment être des individus qui font la volonté de Dieu. Une chose est compréhensible. L'esprit de l'homme ne peut pas comprendre les choses spirituelles. Ce n'est pas possible. Lisez la Bible. Vous lirez cette Bible d'une façon qui est la vôtre, qui sera différente de la façon dont les autres lisent la Bible. Ah, direz-vous, voilà une excuse. Pas du tout. Ce n'est pas une excuse. Vous pouvez seulement comprendre la Bible comme Dieu veut que vous la compreniez si vous recevez le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous guide dans cette étude. Voyez-vous, c'est ça, justement, qui fait la différence. L'apôtre Paul dit, dans ses écrits, surtout dans la première épître de Paul aux Corinthiens, la différence entre l'Esprit de l'homme et l'Esprit de Dieu. Laissez-moi vous citer ce passage. Un passage incroyable. Extrêmement important parce que, voyez-vous, si vous ne savez pas ce que c'est que l'esprit de l'homme et l'esprit de Dieu et la différence entre les deux, vous ne comprendrez jamais vraiment comme la Bible doit être comprise. Je le répète, la seule façon de comprendre la Bible, c'est d'avoir le Saint-Esprit et comprendre, raisonner, lire la Bible, l'étudier avec l'aide du Saint-Esprit. Notez maintenant ce que l'apôtre Paul en parle. Et comment décrit cette différence? 1 Corinthiens chapitre 2. C'est très important parce que je prendrai un peu de temps pour vous expliquer. Il dit, verset 6, commençons par verset 6, il dit, « L'esprit humain, dit-il, ne peut pas comprendre cette différence. » Et il dit, « Cependant, verset 6, c'est une sagesse que nous prêchons, nous, dans la Bible, dans le Nouveau Testament, ce sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit, ceux qui ont été convertis. » Donc, il parle en tant qu'apôtre, nous prêchons, dit-il, parmi les parfaits. Les parfaits dans la Bible, ce sont ceux qui sont mûrs. C'est vous, si vous avez reçu le Saint-Esprit. C'est moi. Ce n'est pas une question d'être parfait au point de vue de divin, non. Nous devons marcher vers la perfection. Mais si le mot parfait, c'est mûr, mettons. Il dit, sagesse qui n'est pas de ce siècle, qui n'est pas de ce monde. Autrement dit, la compréhension, la sagesse dont nous avons besoin doit nous venir de Dieu et non pas de l'esprit charnel humain. Il dit qu'il n'est pas de ce siècle ni de des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. Voyez-vous, ce monde dont nous vivons, ce monde physique va être anéanti. Et tous ceux qui vivons maintenant, nous voyons déjà les conséquences de ce que l'homme a fait, de ses 6000 ans d'existence sur cette terre. Nous voyons déjà que si nous nous laissons guider par la sagesse humaine, nous nous dirigeons vers la catastrophe. Et Paul dit, verset 6, il dit, « Sagesse qui n'est pas de ce siècle, pas de ce monde, ni des chefs de ce siècle qui vont être anéantis. » Dieu n'est pas cruel. Dieu a fait les choses à sa façon et il veut que nous puissions faire les choses à sa façon, à lui, afin que nous puissions arriver au but. Il dit, « Nous, c'est le verset 7, le « nous », je répète, ceux qui sont convertis, et c'est l'apôtre Paul qui parle, « nous prêchons la sagesse de Dieu. » Voilà, c'est ça la différence. La sagesse de Dieu est différente de la sagesse humaine. La sagesse humaine nous conduit vers la destruction. La sagesse divine nous conduit vers la guérison, vers le salut, vers la vie éternelle. Il dit, c'est un mystère caché, cette sagesse de Dieu. Il dit, avant les siècles, Dieu avait déjà des destinées, dit-il, pour notre gloire. Je répète, c'est toujours ce mystère, si vous voulez, de recevoir l'Esprit de Dieu et ensuite d'avoir la compréhension divine. Verset 8, 1 Corinthiens 2, verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a. Voilà, vous pouvez voir autour de vous. Car s'ils eussent connu, ils n'auraient pas crucifié le Seigneur. Et c'est vrai, si les gens avaient étudié la Bible, s'ils savaient pourquoi le Christ est venu, ce ne sont pas les Juifs seuls qui ont crucifié le Christ. C'est nous tous, nous qui avons eu et qui avons encore peut-être les yeux fermés. Mais dit-il, comme il est écrit, verset 9, ce sont des choses que l'œil n'a pas vues, des choses que l'oreille n'a pas entendues, et qui n'ont pas été montées au cœur des hommes. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais pourquoi cette question? Pourquoi cette déclaration? Pourquoi cette précision? Est-ce que nous, entre guillemets, les chrétiens, n'aimons pas Dieu? Eh bien, la réponse est non si nous n'observons pas ses commandements. Si nous laissons de côté le sabbat, aimer Dieu, c'est respecter Dieu. Aimer Dieu, c'est faire sa volonté. Aimer Dieu, c'est se soumettre à ses ordres. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, pour ceux qui aiment Dieu, verset 10, Dieu nous les a réservés par l'Esprit. Voyez-vous, l'Esprit Saint. Le Saint-Esprit que nous devons recevoir. Il dit, je continue, car l'esprit sonde tout, l'esprit de Dieu, même les profondeurs de Dieu. Ce n'est que par l'esprit de Dieu que nous pouvons comprendre les profondeurs de la création humaine, les profondeurs des promesses que Dieu nous a faites. Ensuite, regardez voir verset 11, un verset extrêmement important. Lequel des hommes, maintenant il parle de vous et de moi, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme? Et ceci est vrai pour tout le monde. Tout ce que nous pouvons connaître en tant qu'être humain, c'est par l'esprit humain qui est très limité, très, en quelque sorte, réservé à nos sens physiques. Mais ce n'est pas par ces sens physiques que nous arrivons à comprendre ce que c'est que le sabbat. Mais dit-il, de même, personne ne connaît les choses, verset 11, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Voyez-vous, c'est toujours cette opposition entre les deux esprits. Si vous ne comprenez pas ceci, vous ne comprendrez jamais la Bible. Vous ne comprendrez jamais l'importance du sabbat. Vous ne saurez jamais pourquoi Dieu a mis son nom sur ce septième jour. Dieu veut que nous puissions, nous, avoir l'Esprit de Dieu en nous, être baptisés, recevoir le Saint-Esprit, afin de pouvoir comprendre le sens spirituel de ses commandements. Et c'est ça qui compte. Donc il dit, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, dit-il, nous les chrétiens, nous qui sommes parfaits, hein, entre guillemets, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous n'avons pas, dit-il, reçu l'Esprit du monde. Non. Au moment du baptême, baptême par immersion, nous recevons l'Esprit de Dieu et non pas l'Esprit de l'homme. L'Esprit du monde, dit-il, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Eh oui, tout ce que Dieu nous donne, c'est par sa grâce. Nous ne pouvons jamais comprendre l'esprit humain, l'esprit divin plutôt, à moins d'avoir l'esprit de Dieu qui nous mène vers cette compréhension profonde. Ensuite, il ajoute des choses que Dieu nous a données par sa grâce, parce que tout ce que nous avons, c'est par grâce, grâce divine. Et nous dit-il, nous en parlons non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine. Voyez-vous, il y a une différence, grande différence, entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Mais dit-il, avec ce qu'enseigne l'Esprit, l'Esprit de Dieu, employant, dit-il, un langage spirituel. Ce ne sont pas des choses mystérieuses. Ici, l'apôtre Paul ne parle pas des choses que nous ne pourrions pas comprendre. Pas du tout. Il dit, l'Esprit avec un langage spirituel pour les choses spirituelles. Autrement dit, je répète, ce sont des choses que vous comprenez peut-être, mais tâchez d'analyser. Tout ce que vous savez, tout ce que vous pouvez apprendre, c'est par la connaissance des cinq sens physiques. C'est ça. Autrement dit, la connaissance nous vient par les cinq sens physiques. Ce n'est pas ceci qui nous amène vers la sagesse, qui nous permet de comprendre ce qu'est vraiment la sagesse divine. C'est cette différence que nous devions nous tous comprendre. Ensuite, au verset 14, « Nous en parlons, dit-il, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais, dit-il, avec ceux qu'enseigne l'Esprit de Dieu, employant un langage spirituel pour des choses spirituelles. » Ensuite, il ajoute un verset qui est très important, verset 14, « L'Esprit de l'homme, dit-il, c'est un esprit, eh oui, charnel. » Mais l'homme animal, dit-il, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Voilà la différence. Voilà pourquoi le sabbat est respecté. Voilà pourquoi les commandements de Dieu sont rejetés. Voilà pourquoi les gens disent, voilà ce que je pense, et voilà pourquoi chacun croit avoir raison. Il dit, l'Esprit que l'homme ne peut pas comprendre, verset 14, toujours, les choses qui sont spirituellement connues. Je paraphrase. Ça, c'est l'idée. Voyez-vous, l'apôtre Paul nous explique clairement la différence entre la façon humaine de raisonner et la façon divine de raisonner. Entre la sagesse humaine qui n'est que vanité et la sagesse divine qui nous amène vers la vie éternelle. L'un, ou plutôt l'une est physique, l'autre est spirituelle. Et nous devons, nous, absolument faire le nécessaire, comme je viens de dire, d'abord accepter l'existence de Dieu, ensuite croire en Dieu, ensuite suivre les commandements que Dieu nous donne dans la Bible pour arriver à la compréhension spirituelle de ses ordres, de ses commandements. Ensuite, nous conformer physiquement, par exemple, oui, physiquement au baptême. Le baptême, vous direz, ce n'est pas important, mais si, on ne doit pas seulement, je dirais, que dis-je, on ne doit pas baptiser les enfants. Ce n'est pas logique. Dieu nous dit clairement que pour être baptisé, nous devons d'abord nous repentir de nos péchés, ensuite ne plus les répéter, ensuite accepter l'ordonnance du baptême par immersion totale, ensuite par l'imposition de la main d'un ministre, recevoir le Saint-Esprit. Dès ce moment-là, nous sommes sur le chemin de la perfection. Dès ce moment-là, nous sommes sur le chemin de comprendre la différence entre la sagesse humaine et la sagesse divine. Dès ce moment-là, voyez-vous, nous n'allons plus disputer avec Dieu en disant que oh, ça c'est pour les Juifs ou ça c'est pour quelqu'un d'autre. Ce que Dieu nous dit dans la Bible, nous devons l'accepter, nous devons le mettre en pratique et nous devons toujours savoir que Dieu nous bénit toujours si nous faisons notre part. Mais ce n'est pas ainsi, malheureusement, que la plupart des gens ont reçu le Saint-Esprit. Ils pensent avoir reçu le Saint-Esprit. On baptise les enfants à quelques jours, à quelques mois, et ensuite on asperge quelques gouttes d'eau, et on dit, voilà, il est maintenant baptisé. Ça, ce n'est pas le baptême. Le vrai baptême, c'est par immersion totale, comme le Christ nous a montré, et après cela, par l'imposition des mains. Mais ça, c'est une question que nous, dans l'Église, nous le savons. La chose que nous devons savoir davantage, c'est qu'une fois que nous avons l'Esprit de Dieu, nous devons raisonner comme l'Esprit de Dieu et non pas avec notre raisonnement physique, c'est-à-dire humain. Commencez-vous à comprendre, même nous autres dans l'Église de Dieu, nous avons parfois des discussions entre nous-mêmes ou bien des difficultés à voir pourquoi les choses qui sont faites par Dieu sont un peu difficiles à comprendre. Elles ne sont pas difficiles. Elles ne doivent pas être difficiles. Si nous savons que Dieu nous aime, si nous savons que Dieu est toujours avec nous, si nous savons que Dieu veut que nous puissions vraiment nous approcher de lui, alors faisons les choses comme il nous dit de faire dans la Bible. Voyez-vous, la vérité n'est pas difficile à comprendre. Elle est difficile à mettre en pratique parce que cette vérité s'oppose à notre esprit charnel, comme l'apôtre Paul le dit. Ensuite, il y a encore une autre raison pour laquelle nous célébrons le sabbat. Autrement dit, quelle est la différence entre un chrétien et un qui n'est pas chrétien? Comment est-ce que nous pouvons distinguer? La réponse, clairement, dans la Bible, nous est donnée. Car Dieu nous dit que le sabbat est un signe. Ah, un signe, nous comprenons. Nous savons ce que c'est qu'un signe, nous pouvons voir ou sentir, ou toucher. Donc, regardez voir ce que la Bible dit en ce qui concerne le sabbat. Le sabbat est un signe entre Dieu et nous. Au commencement, à l'époque des Israélites, Dieu a donné aux Israélites ces ordonnances. Ensuite, il a dit en même temps que c'est un signe entre ceux que Dieu appelle à cette époque-là et lui. C'était un signe. De même aujourd'hui, nous qui nous faisons baptiser, lorsque nous devenons chrétiens, entre guillemets, dès ce moment-là, c'est un sabbat entre... C'est un signe entre Dieu et nous. Comprenez-vous ceci? Un signe est important. Dieu nous donne cette distinction, nous permet de voir ce que c'est qu'un chrétien en observant ces commandements-là. Notez-le. D'abord, laissez-moi ajouter, puisque les idées me viennent en parlant, la plupart des chrétiens aujourd'hui pensent que le sabbat a été donné par Moïse. Non, d'abord nous avons vu que le sabbat a été donné par Dieu lors de la création, et ensuite, les 10 commandements ont été donnés pas par Moïse, mais par Dieu même. Vous n'avez qu'à lire la Bible, lisez Exode. C'est marqué clairement, c'est Dieu qui a parlé, c'est Dieu qui a dicté, c'est Dieu qui a dit à Moïse, écoute, tu diras à mon peuple. Voilà, il est difficile de comprendre la Bible lorsqu'on la lit sans préjudice, sans préjugé. Lorsque vous lisez la Bible, laissez Dieu l'interpréter pour vous. Laissez Dieu vous expliquer par sa sagesse. Exode, chapitre 31. Donc maintenant, je vous donne ce que Dieu dit en ce qui concerne le sabbat. Exode 31, versets 12 à 17. « Éternel parla à Moïse. » Voyez-vous, ce n'est pas Moïse qui a donné ce qui suit. C'est Dieu qui a parlé à Moïse et dit, « Parle aux enfants d'Israël. » Voilà. Nous sommes aujourd'hui israélites, si vous voulez, ou bien chrétiens, entre guillemets, si nous sommes le peuple de Dieu. Donc Dieu parle à son peuple, il dit, « Parle à mon peuple. » Il dit, vous ne manquerez pas d'observer mes sabbats. Mes sabbats parce qu'il y a, je répète, les sabbats hebdomadaires et les sabbats annuels. Car ce sera-t-il encore entre vous et moi un signe, et parmi vos descendants et moi un signe auquel on connaîtra que je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Le mot sanctifier signifie qui vous rend saint ou sur le chemin de la perfection. Et Dieu dit, vous observerez, verset 14, le sabbat car il sera pour vous une chose sainte. Si Dieu rend quelque chose saint, il faut bien que nous puissions l'observer. Il faut bien que nous puissions le mettre en pratique. Ce qu'il profanera, voyez-vous, c'était à ce point-là à l'époque, et c'est toujours le cas. Il dit, celui qui le profanera sera puni de mort. Regardez-moi cette sanction. Dieu est-il cruel? Non. Mais Dieu nous dit comment être sur le bon chemin pour arriver au salut. Et celui qui fera quelques ouvrages ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Autrement dit, ce n'est pas parce que Dieu veut que nous soyons paresseux, pas du tout. Mais il a mis ce jour-là de côté afin que nous puissions nous reposer mentalement, physiquement, et ensuite nous concentrer sur les leçons que Dieu nous donne dans la Bible. Ensuite, Dieu précise, verset 15, on travaillera 6 jours, mais le 7e jour est le sabbat. Sabbat, shabbat, en hébreu, qui signifie le roux. Le repos, voyez-vous, le jour de repos. Consacré à l'Éternel. Comment est-ce que vous consacrez à l'Éternel? Eh bien, nous le verrons dans quelques instants. Celui qui fera quelque chose, quelque ouvrage ce jour-là, sera puni de mort. Il répète. Les enfants d'Israël observeront le sabbat en le célébrant, eux et leurs descendants, comme une alliance, quoi? Alliance perpétuelle. Voilà encore une autre façon de comprendre la Bible. La Bible a des commandements, et ces commandements nous sont donnés de façon perpétuelle. Autrement dit, aussi longtemps que nous sommes vivants, nous devons les observer. Et ensuite, il répète à nouveau, verset 17, ce sera entre nous, entre moi et vous, entre moi et les enfants d'Israël, un signe, voyez-vous. C'est un signe. Si c'est un signe, c'est important, il faut que nous puissions l'observer, qui devra durer à perpétuité. Car, ensuite, il répète à nouveau, en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre, Et le septième jour, il a cessé son œuvre qu'il avait créée. Alors, voyez-vous, beaucoup de gens, de chrétiens maintenant, lisent ces versets, disent « Dieu est cruel. Dieu nous empêche de nous amuser. Dieu nous empêche d'avoir, d'être heureux ce jour-là. » Pas du tout. Ce n'est pas ça que Dieu dit. La question du sabbat, il faut comprendre que le sabbat est un jour de repos afin que nous puissions nous approcher davantage de Dieu. Afin que nous puissions vraiment comprendre ce que Dieu a en vue pour nous autres. Car la plupart des gens, et même parfois dans l'Église, au sein de l'Église, ne comprennent pas l'importance d'obéir à Dieu de façon à en tirer le maximum de bénéfices. Dieu ne veut même pas que nous mourions, vous savez. Dieu veut nous protéger. Le sabbat est une protection pour nous. Car le sabbat est important pour nous, en tant que création, non pas seulement pour la compréhension de la Bible, mais aussi pour nous reposer physiquement. Même les médecins vous disent que vous avez besoin du repos chaque semaine. Et de là, les gens, évidemment, se donnent la liberté en disant, eh bien, on peut se reposer n'importe quel jour. Ce repos dont on parle est un repos à la fois physique et spirituel. Dieu veut absolument nous protéger. Le sabbat nous protège du mal. Le sabbat nous protège des maladies. Eh oui, je vais vous en parler dans quelques instants. Dieu sait fort bien ce dont nous avons besoin. Alors, dans ce cas-là, observez le sabbat en vous reposant du travail régulier que vous faites et ensuite en vous approchant davantage de Dieu. Le sabbat doit être une occasion de réjouissance et non pas de privation. Pour beaucoup de gens, c'est un jour de privation parce qu'ils veulent faire les choses qu'ils font durant la semaine. Eh bien, ce jour-là, faites les choses qui sont importantes aux yeux de Dieu. Vous verrez la différence. C'est un jour où nous avons toutes sortes de bénédictions lorsque nous nous éloignons des choses que nous faisons durant la semaine, par exemple du travail régulier que nous avons pour gagner notre vie, mais pour nous consacrer davantage à Dieu. On peut faire beaucoup de choses le jour du sabbat, vous savez. On peut s'amuser de la bonne façon, se reposer un petit peu en marchant, en écoutant de la bonne musique, tout en étudiant la plupart du temps la Bible. Certainement, le sabbat est un jour où nous devons aller à l'église. J'en parlerai dans quelques instants. Autrement dit, le sabbat n'est pas un jour de privation. Le sabbat est un jour pour nous tous lorsque nous pouvons davantage penser comme Dieu pense, sans nous occuper de toutes les choses ordinaires que nous faisons lors de la semaine. Si nous faisons ceci, mes frères et mes sœurs, nous en tirons le maximum de bénéfices. Non, ce n'est pas un jour de privation. Au contraire, allez respecter le sabbat comme Dieu vous le dit. Faites du bien. Allez aider les gens qui ont besoin de vous de la bonne façon. Autrement dit, faites de sorte que vous puissiez être davantage, si c'est possible de dire, davantage chrétien. Le sabbat nous permet de nous réjouir davantage des bénédictions, des commandements de Dieu, si nous comprenons l'importance de ce jour-là. Voyez-vous, Ésaïe chapitre 58. Dieu nous dit exactement comment observer le sabbat. C'est très clair. Regardez, Ésaïe 58, verset 13. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, c'est le sabbat hebdomadaire et le sabbat en même temps annuel, pour ne point faire ta volonté en mon saint jour. Dieu précise encore le sabbat en disant « mon saint jour ». Si tu fais du sabbat, dit-il, tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Voilà comment vous pouvez célébrer le sabbat comme il faut. Si tu l'honores en ne suivant point tes voies charnelles, en ne te livrant pas à tes penchants charnels, j'ajoute, à devant un discours. Voyez-vous, il nous donne des précisions. Alors, dit-il, tu mettras ton plaisir en l'Éternel. C'est ça qui est le charme. Lorsque vous mettez votre plaisir en Dieu, vous avez tout ce dont vous avez besoin et vous avez la paix d'esprit. Et je te ferai, dit-il, monter sur les hauteurs du pays. Ça, c'était donné de la façon dont on parle dans l'Ancien Testament. Autrement dit, Dieu nous bénira, nous donnera tout ce dont nous avons besoin si nous l'honorons comme il nous le dit dans la Bible. Je te ferai, dit-il, jouir de l'héritage de Jacob. Mais c'est quoi l'héritage de Jacob? C'est l'héritage qu'il a donné à Jacob à l'époque sur le plan physique. Aujourd'hui, c'est l'héritage qu'il nous donne sur le plan spirituel, par la promesse du Christ, comme quoi nous aurons, nous, la vie éternelle en observant ce jour-là comme les autres commandements divins. Ensuite, Dieu termine en disant, « Car la bouche de l'Éternel a parlé. » Mes frères et mes sœurs, nous lisons la Bible souvent dans l'Église, mais nous ne faisons pas attention à l'importance des promesses divines par rapport à nos responsabilités au sein de l'Église. Ces versets-là, comme vous pouvez voir, ne sont pas cités par les chrétiens du monde, mais ils doivent être cités par nous. Ils doivent être répétés par nous. Ils doivent être vraiment examinés par nous. Par ces versets-là, nous montrent comment nous approcher de Dieu. Il y a beaucoup de choses, je répète, qu'on puisse faire le sabbat. Allez voir des amis qui ont besoin de vous, sans transgresser la loi. Allez visiter quelqu'un qui a besoin de vous, toujours dans l'esprit de la loi. Écoutez de la bonne musique, faites une petite marche. Autrement dit, le sabbat n'est pas un jour de privation, je répète. Mais si vous comprenez l'importance, et parlez à un ministre s'il le faut, comment l'observer ce jour-là, et si vous faites votre part, vous verrez que vous pouvez honorer Dieu par beaucoup de choses. Car vous ne pouvez pas aimer Dieu si vous n'aimez pas votre prochain. Ça, c'est le principe, voyez-vous. Je me rappelle combien de fois j'ai discuté avec des gens en ce qui concerne le sabbat. Parce que dans l'esprit de l'individu moyen, l'individu, j'entends, chrétien moyen, il y a toujours cette restriction. Non, le sabbat n'est pas un jour de restriction. Au contraire. Ensuite, beaucoup de gens aussi confondent le repos physique avec le repos mental. Le Christ, comme exemple, a toujours observé le sabbat. Si le sabbat était annulé, comme certains prétendent, pourquoi le Christ l'a-t-il observé? Vous direz parce qu'il était juif. Ridicule. Le Christ était né de la race juive, humainement parlant. Mais il a observé les sabbats annuels, le sabbat hebdomadaire, tous les commandements de Dieu. Ce faisant, il est devenu un véritable disciple de Dieu le Père. Et nous, nous devons devenir aussi disciples du Christ. Le Christ allait à la synagogue chaque sabbat. Notez-le. Luc, chapitre 4, verset 31. Il descendit à Capernaüm, ville de Galilée. Il enseignait le jour du sabbat, en tant que ministre, évidemment. Ailleurs, dans Marc, chapitre 2, verset 27 à 28, notez-le, il dit, le sabbat a été fait pour l'homme, c'est le Christ qui parle, et non l'homme pour le sabbat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme nous avons vu, dès la création, le sabbat a été fait par Dieu. par le Christ, pour nous. Donc, il est maître du sabbat. Être maître du sabbat ne signifie pas qu'il transgressait le sabbat du tout lorsqu'il était sur cette terre. Pas du tout. Nous devons comprendre cette importance, voyez-vous. Si nous, en tant que chrétiens, nous faisons ce que Dieu nous dit, si nous, en tant que chrétiens, nous croyons à ses commandements, nous verrons que Dieu sait ce qu'il fait. Et c'est vrai. Mes frères et mes sœurs, nous autres dans l'Église, nous devons comprendre ceci. Nous devons expliquer ceci à nos prochains. Il faut que nous puissions leur dire que le respect des commandements divins nous mène vers la perfection, vers la joie, vers la réjouissance. En fait, je vous ai parlé de cet avocat à Paris il y a quelques années, mais allons un peu plus loin. On n'a pas besoin d'être, je dirais, un savant ou bien quelqu'un qui connaisse bien l'histoire pour vous demander tout simplement pourquoi est-ce que le sabbat a été changé aujourd'hui, puisque le sabbat était juif, entre guillemets, c'est-à-dire parce que les juifs l'observaient, pourquoi le sabbat était le septième jour à l'époque. Et pourquoi aujourd'hui le sabbat, tout d'un coup, est devenu le premier jour chez les chrétiens qui ne comprennent pas la Bible? Eh bien, faites un effort, faites des recherches. Si vous faites des recherches vous-même, vous comprendrez les choses beaucoup mieux. Vous les retiendrez davantage parce que vous avez fait un effort pour les comprendre. Moi, j'ai dû faire. J'ai étudié. Et vous n'avez qu'à aller à la Bibliothèque nationale, ou bien la bibliothèque de chez vous. Regardez voir pourquoi et comment le sabbat a été changé du septième jour au premier jour. Eh bien, c'est arrivé, je vous le dis, vous n'avez qu'à faire vous-même, vérifier, en 325 de notre ère, au concile de Nicée. L'empereur Constantin, qui détestait les Juifs, a voulu se débarrasser de tout ce que les Juifs faisaient. Et le sabbat était une raison principale pour absolument être sûr que les chrétiens entre guillemets, n'allaient pas observer ce qui est juif. Donc, il a décrété comme quoi le sabbat n'était plus valable. Mais il fallait qu'il le remplace par quelque chose d'autre. Eh bien, il l'a remplacé, soi-disant, il l'a remplacé par le premier jour de la semaine, lorsque le Christ est ressuscité. Voilà encore une autre faute. Voilà encore une autre façon comme les chrétiens n'obéissent pas à Dieu. Où est-ce que vous trouvez dans la Bible que le Christ a été ressuscité le premier jour? Vous ne pouvez pas trouver 3 jours et 3 nuits entre vendredi après-midi et dimanche matin à l'aube. Voyez-vous, là encore, ce sont des arguments qui ne valent pas, qui ne sont pas valable. Donc, ce changement qui a été fait du septième jour au premier jour ne tient pas debout. Et pourtant, la plupart des chrétiens aujourd'hui suivent cette habitude, cette coutume, sans même vérifier que ce jour n'a pas été changé. Mais il y a encore plus. Supposons que le Christ eût été ressuscité le premier jour. Supposons. Ce n'est pas une raison pour nous de changer l'un des 10 commandements. Où est-ce que vous trouvez dans la Bible une ordonnance, une permission, autorisation quelconque, comme quand nous pouvons changer les choses à cause de certaines autres choses? Non, ce n'est pas possible. Non, pas seulement le Christ n'est pas ressuscité le jour de dimanche. Ensuite, aucun de nous n'a le droit de changer les 10 commandements sous aucune excuse. Donc, voyez-vous, si vous prenez le temps à vérifier les choses, si vous consultez les ouvrages que vous pouvez consulter, vous pouvez voir que la plupart des choses que le christianisme moderne fait n'est pas bibliquement soutenu. Mais nous autres, dans l'Église, nous devons faire attention à cela. Nous devons vérifier toute chose. Nous devons, avant toute chose, nous tourner vers Dieu et demander à Dieu de nous instruire dans cette connaissance. Faites des recherches. Vous savez quoi? Je sais par expérience, parce que je n'étais pas né dans cette religion. Je n'étais pas né, entre guillemets, chrétien. La plupart du temps, les gens naissent certainement dans un pays quelconque, et ils se donnent, ils s'appellent, mettons, là où ils sont nés. On est né en France, on est français. On est né en Amérique, on est américain. D'accord, ça je comprends. Ça c'est normal, si vous voulez. Mais la plupart du temps, je répète, les gens sont nés aussi en même temps dans une religion. Et ça, c'est une faute. Alors que je n'ai pas, moi, le choix d'être né là où je suis né, j'ai le choix de naître, spirituellement parlant, dans la religion que je vais choisir. On n'est pas né dans une religion. On ne doit pas naître dans une religion. Et pourtant, c'est le cas. Voilà pourquoi, si vous êtes protestant, vous suivez la religion de votre, de vos parents. Si vous êtes catholique, vous suivez la religion de vos parents, ainsi de suite. Mais ça, ce n'est pas ainsi que Dieu veut que nous fassions. La conversion, c'est exactement l'opposé. Lorsque vous êtes converti, vous ne suivez plus la religion dans laquelle vous êtes né, mettons, mais vous changez de religion. Vous prenez la religion que le Christ nous recommande dans la Bible. Ça, c'est l'importance. Ça, c'est important dans notre vie particulière. Chacun de nous, quelle que soit notre importance, quelle que soit notre intelligence, chacun de nous doit absolument choisir et étudier et accepter la religion que Dieu nous recommande. Et ce choix est facile lorsque nous nous trouvons, lorsque nous nous mettons à genoux devant Dieu, lorsque nous lui demandons de nous aider, lorsque nous disons, écoute Dieu, aide-moi à comprendre. Aide-moi à comprendre les choses à ta façon. Vous verrez. Vous verrez comment Dieu va vous aider, comment Dieu va vous montrer le chemin. Mais après cela, il faut respecter ce que vous apprenez. Il faut vraiment que vous puissiez savoir que Dieu vous aidera si vous-même vous êtes disposé à changer. Si vous êtes disposé à changer votre religion, vos compréhensions, vos choix, aux choix que Dieu vous propose dans la Bible. C'est ça la différence, voyez-vous. Nous avons, nous, aujourd'hui, la petite compréhension de notre petit monde. Nous voyons les choses aujourd'hui. Notre compréhension est limitée. Dieu voit toutes choses. Notre vie humaine sur cette terre ne dure qu'un instant. Mais la vie que Dieu nous promet, la vie spirituelle, c'est une vie perpétuelle, éternelle. Voilà le choix. Donc, acceptez le choix que Dieu vous propose. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, si vous voulez, qui se croient chrétiens parce qu'ils observent une bonne partie des commandements de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas suffisant. Notez ce qui est marqué dans Jacques, chapitre 2, verset 10. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, y compris le sabbat, évidemment, devient coupable de tous. Voilà. Voilà comment les choses sont devant Dieu. La vérité est absolue. On ne peut pas être moitié chrétien. On ne peut pas être moitié religieux. On ne peut pas aimer quelqu'un à moitié. On ne peut pas servir à moitié. Avec Dieu, c'est tout ou rien. Et c'est ça la différence, voyez-vous. On ne peut pas observer les commandements de Dieu sans observer le sabbat et sans observer le sabbat à la bonne façon. Voyez-vous, le christianisme est simple. Dieu ne nous demande pas des choses que nous ne pourrions pas faire, pas du tout. Dieu nous demande des choses et il nous donne la force, les moyens, la capacité de pouvoir les accomplir. Aucun de nous, que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église, Aucun de nous n'a le droit de dire « je ne comprends pas ». Non, si vous ne comprenez pas, demandez à Dieu de vous aider à comprendre. Si vous ne comprenez pas, si vous avez l'occasion de rencontrer un ministre de Dieu, un ministre véritable, parlez-lui, demandez. Et vous verrez toujours que si la personne qui vous parle, ce qu'il vous dit ou ce qu'elle vous dit, mettons, est conforme à la Bible, dans ce cas-là, c'est la vérité. Mais la plupart du temps, ce que vous entendez en tant que christianisme de nos jours n'est pas conforme à la volonté de Dieu. Laissez-moi vous citer encore Ésaïe, chapitre 56. Ayez ceci en tête. Nous avons été créés pour être un jour changés d'esprit physique que nous sommes, ou de corps physique si vous voulez, ou de la vie physique, pour être des gens, des individus spirituels. Ça, c'est le but de la vie. Et nous le savons dans l'Église. Donc, suivons ce chemin tout en ayant le sabbat en tête, en disant que le sabbat représente le repos absolu, le repos éternel. Et nous nous dirigeons vers ce repos éternel si nous observons ce sabbat physique de façon que Dieu nous recommande dans la Bible. Ésaïe 56, versets 1 à 2. « Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit, pratiquez ce qui est juste. » Voilà comment avancer dans la vérité. « Car mon salut, de quoi est-ce que le Christ parle ? Le salut éternel pour lequel nous avons été créés. « Car mon salut ne tardera pas à venir. » Voyez-vous ? Regardez voir où nous en sommes aujourd'hui. Regardez voir ces jours difficiles. Et nous nous disons tous, mais jusqu'à quand ça va durer? Dieu dit, mon salut ne va pas tarder. Ma justice ne tardera pas à se manifester. Voilà notre espoir. Heureux l'homme, verset 2. Ésaïe 56, verset 2. Heureux l'homme qui fait tout cela. Le Fils de l'homme qui demeure ferme, gardant le sabbat pour ne point le profaner. Voyez-vous, ici encore Dieu nous montre comment avancer en cela, en veillant sur sa mère pour ne pas commettre un mal quelconque. Lors du ministère du Christ, beaucoup de gens comprenaient mal ces choses et pensaient que même guérir pour le Christ un malade était une transgression des lois divines. Mais c'est la folie. Le Christ a guéri les malades le jour du sabbat. En fait, la plupart des miracles qu'il a fait, de guérison, s'étaient faits un jour de sabbat. Notez par exemple dans Luc chapitre 13, verset 10. Il y avait une femme, là encore je paraphrase, possédée d'un esprit malin, d'un démon, étant infirme depuis 18 ans, était courbée et était vraiment malade. Lorsqu'elle voit, verset 12, le Christ lui adresse la parole et dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » C'est le Christ qui voit la souffrance de cette femme et qui la guérit. Il lui imposa les mains. À l'instant même, la femme était guérie. Donc, le chef de la synagogue, verset 14, je paraphrase toujours, donc, il voit ça et puis il accuse le Christ. Il dit, comment est-ce qu'on peut travailler le jour du sabbat? Quelle sorte de travail était-ce? Voyez-vous, là encore, ils ont mal compris. Ils ont blasphémé le Christ parce qu'il a guéri un malade et ils appelaient ça un travail. Non? Ce n'était pas un travail. Le Christ a dit, verset 15, hypocrite. Il dit, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache pas de la crèche son bœuf ou son âne pour le mener boire? Autrement dit, ce qui est nécessaire, ce qui est juste, ce n'est pas un travail, ce qui aide votre prochain, voilà des choses que vous pouvez faire. Et cette femme, dit-il, ne devrais-je pas moi-même la guérir? Je paraphrase. Tandis qu'il parlait ainsi, verset 17, tous ses adversaires étaient confus. Et c'est normal. Parce que je répète, le jour du sabbat est un jour saint. Nous devons le garder saint. Aider quelqu'un de la bonne façon, comme le Christ le dit, est une bonne chose. Et certainement, la guérison, une guérison qui a lieu le jour du sabbat, est tout à fait permise. Aujourd'hui encore, je dis cette ignorance est générale en ce qui concerne auprès des juifs, même auprès des chrétiens. Plus vous comprenez la nécessité d'obéir à Dieu, plus vous comprenez l'importance d'aider votre prochain, plus vous deviendrez chrétien et plus vous comprendrez comment faire les choses le jour du sabbat. Un autre exemple, Luc 14, Jésus était entré le jour du sabbat dans la maison d'un chef. Ensuite, il prenait le repas avec eux et voilà que quelqu'un, un autre malade, se présentait et les gens, je paraphrase toujours, les gens voulaient voir si le Christ allait le guérir. Eh bien, si, il l'a guéri. Les gens gardaient le silence. Le Christ, verset 4, avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Et ensuite, une fois encore, il explique, verset 5, Luc 14, il dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, ne l'en tire pas. Ensuite, et pourquoi pas, ce ne serait pas ainsi le jour du sabbat. Il ne pouvait répondre. Voyez-vous, je peux vous en donner beaucoup d'autres exemples. Mais il faut que je puisse vous expliquer une chose. Ne raisonnez pas à votre façon humaine sur la façon d'observer le sabbat ou de ne pas l'observer. Étudiez la Bible. Demandez à Dieu à genoux. Dieu, montre-moi comment je peux l'observer. Le sabbat est un jour où nous faisons du bien. Le sabbat est un jour où nous approchons du Christ. Le sabbat n'est pas un jour de privation quelconque. Le sabbat, je répète, est un jour de réjouissance. Et aussi, évidemment, le sabbat est un jour de convocation annuelle et convocation hebdomadaire. Chaque semaine, nous respectons le sabbat comme un jour saint. C'est vrai, vous, c'était ça le but. Nous devons nous assembler en groupe, en église, et étudier la Bible sous la direction d'un ministre. Nous devons étudier la Bible, nous devons faire du bien à notre prochain, nous devons apporter de la joie tout en ayant cette convocation divine, convocation parmi les gens qui croient comme nous croyons et comme nous croyons comme le Christ nous ordonne. Notez-le, Hébreux chapitre 10, verset 23. Retenons fermement, dit-il, la profession de notre espérance. Notre espérance, c'est la vie éternelle. Car celui qui a fait, la promesse est fidèle. La promesse, c'est le Christ, c'est Dieu. Veillons, dit-il, les uns sur les autres pour nous exciter à la charité, à l'amour et aux bonnes œuvres. Voilà comment être vraiment chrétien. N'abandonnons pas notre assemblée, c'est un ordre. N'abandonnons pas notre assemblée, dit-il, comme c'est le cas, la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement. Exhortons-nous. Et cela d'autant plus que, dit-il, vous voyez s'approcher le jour. Ceci s'adresse à nous. Nous voyons s'approcher ce jour. Regardez autour de vous. Regardez ce qui se passe. Regardez où nous en sommes aujourd'hui. Les famines, les destructions, les guerres, la catastrophe même économique à l'heure actuelle. Autrement dit, nous sommes vraiment dans une situation intenable humainement parlant. Voyez de la pauvreté autour de nous. Regardez la pauvreté. Deux hommes sur trois aujourd'hui n'en mangent pas à leur faim. Et les catastrophes. Mais tout cela est promis dans la Bible. Promis dans ce sens que ça va arriver. Mais ça n'a pas besoin d'arriver à nous dans ce sens que si nous faisons notre part, si nous respectons Dieu, si nous faisons notre part en tant que chrétien, nous en serons épargnés. Dieu nous a promis de nous épargner. En fin de compte, voyez-vous, le sabbat est un jour où nous pouvons vraiment nous reposer en nous débarrassant de tous ces soucis. On n'a pas besoin de nous inquiéter de ce qui va se passer demain. Vous savez, le but principal du sabbat, humainement parlant, non pas seulement c'est de jouir de ce jour-là, alors que nous sommes êtres humains, mais de vraiment devoir de respecter le sabbat pour comprendre l'importance de ce jour en ce qui concerne l'avenir. Car, vous n'avez qu'à lire, je n'ai pas le temps, lisez Hébreux chapitre 4. Dans Hébreux chapitre 4, c'est marqué clairement que nous devons, nous, absolument, non pas seulement respecter le sabbat, mais avoir les yeux sur le sabbat spirituel, c'est-à-dire le millénium, lorsque le Christ sera sur cette terre, lorsque le Christ nous permettra de comprendre ce que c'est qu'être vraiment chrétien. Aujourd'hui, mes frères et mes sœurs, nous vivons dans un monde malade. Aujourd'hui, nous vivons dans un monde où les gens se sont détournés de Dieu. Un monde où le sabbat n'est pas respecté. En tant que chrétiens, vous et moi, nous devons apprécier Dieu. Nous devons respecter les commandements de Dieu. Nous devons respecter ce qu'il nous dit de faire. Et surtout avoir les yeux sur l'avenir, sur le sabbat annuel. Non pas seulement en ce bas monde, annuel dans le sens que ça ne va pas finir. Car le sabbat représente non pas seulement un jour hebdomadaire ou des fêtes annuelles, mais le sabbat, c'est le repos éternel. C'est ça l'importance. Le millénium dont parle le Christ, le millénium dont il est question dans Hébreux 4, ça va arriver. Et ce millénium, c'est le but humain, le but de la création, le but de nous tourner vers Dieu avec ce sens que si nous faisons notre part, un jour, nous pourrons, nous, aider les autres à comprendre que le respect du sabbat nous amène vers le repos éternel. Je répète, mes frères et mes sœurs, appréciez le sabbat, respectez le sabbat, remerciez Dieu de ce que vous pouvez, vous, aujourd'hui encore, et surtout à ce jour, en ce jour-là, et surtout pouvoir respecter librement ce jour que Dieu nous a ordonné d'observer.